joie monte jusqu'au ciel. Ne pensez pas au malheur, ayez la paix dans vos cœurs. Namasté, rien sur la terre, car les voleurs dérobent de jour et de nuit. Namasté, dans le ciel, car ton cœur sera là où est. Avec nous chanter jusque dans l'éternité. Chantez au Père éternel, votre joie monte jusqu'au ciel. Ne pensez pas au malheur, ayez la paix dans vos cœurs. Et soyez sans inquiétude, pour votre vie mangez, boire et crevez-vous. Soyez comme les oiseaux, confiez votre vision de tout puissant. Laissez éclater votre joie, non rien ne la ravira. Venez avec nous chanter, jusque dans l'éternité. Chantez au Père éternel, votre joie monte jusqu'au ciel. Ne pensez pas au malheur, et la paix dans vos cœurs.
Alors, il y en a qui dorment. Tout le monde va bien, sur Internet aussi, ça va. Je voudrais vous parler très rapidement, avant la prédication, d'un très beau film que j'ai vu. Il s'appelle, excusez-moi, mon anglais est épouvantable, Departure. Bon, ça se dit certainement pas Departure, je sais pas comment ça se dit ça. Departure, ça s'écrit Departure, voilà. C'est un film japonais et je vous demande vraiment de regarder ça. Ça n'est pas un film, comme on dit, un film chrétien, c'est-à-dire un film où on parle de Jésus, où les gens sont méchants au début et ils se convertissent à la fin. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est un message qui a un beau message, quelque chose au sujet de l'amour, de la tolérance, de la vie, de la mort. C'est à moins des choses qu'on puisse dire hein, pour ceux qui l'ont vu. C'est très beau, pardon. Oui, prévoyez les Kleenex. Mais voilà, c'est un ami pasteur qui me l'a recommandé, Charles-Henri Nilès, et je vous demande de vous le procurer d'une manière ou d'une autre, légalement, et de le regarder. Vraiment, c'est très très beau, vous n'allez pas être déçus, je vous assure. Bon, nous, à la communauté, on l'a, et ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, vous allez pouvoir le voir parce qu'il est en train de circuler, et vous allez pouvoir le voir. J'ai quelque chose dans ma poche, je me demande ce que c'est. Je ne sais pas. Bon, tant pis. C'est un énorme machin, mais je n'arrive pas à le saisir. Je ne vois pas ce que c'est. Ok. On va lire dans Éphésiens chapitre 5 ce soir. Éphésiens chapitre 5, versets 22-23. Alors, je lis. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. J'ai trouvé ce qui est dans ma poche. C'est une énorme paire de lunettes. Voilà. Je ne vais pas vous prêcher sur la soumission de nos chères sœurs ce soir. Mais je voudrais vous parler de la relation qu'il y a entre le mariage d'un homme et d'une femme et puis aussi notre union avec Jésus-Christ. Nous voulons suivre Jésus-Christ. Et pour suivre Jésus-Christ, eh bien, nous avons deux choses sacrées, saintes, comme précieux trésors sur cette terre. La première de ces choses, c'est ce que nous appelons l'Évangile. C'est-à-dire, c'est pas les quatre évangiles, c'est l'évangile. C'est là, ça veut dire la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que j'appelle l'évangile. Et l'évangile, c'est pas seulement les quatre évangiles, mais nous avons aussi l'évangile selon Paul. C'est-à-dire, Paul, il dit, selon mon évangile, c'est-à-dire, selon ma façon d'apporter le message de la bonne nouvelle, hein, c'est ça que ça veut dire. Nous avons aussi l'évangile selon Jacques, selon Jean, selon Jude, c'est-à-dire chacun contribue à apporter une facette de l'évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chacun de ses envoyés, donc, annonce quelque chose et nous devons avoir une vision globale pour pouvoir tout bien comprendre. Mais nous n'avons pas besoin que de ça, il y a encore d'autres choses que Dieu a donné, c'est les prophètes de l'Ancien Testament qui, eux, annoncent la venue de Jésus, c'est-à-dire ils annoncent l'Évangile, ils annoncent comment ça va se passer. Et en particulier, je voudrais vous rappeler que Hénoc, le septième depuis Adam, est le plus vieux prophète du Seigneur et il a dit des choses absolument magnifiques et nécessaires pour ceux de notre époque, pour bien comprendre. Ça met un point final à beaucoup de questions qu'on peut se poser à partir du moment où on y croit, évidemment. Mais quand vous croyez, eh bien vous allez vous apercevoir que les Écritures prennent vraiment une consistance extraordinaire, encore plus que ce qu'on avait avant, quand on lit ce livre d'Hénoc, qui est un livre inspiré, qui était caché de par la volonté de Dieu et qui est réapparu à la fin, alors que Dieu est en train de restaurer toute chose. Et tous ces écrits sont inspirés par Dieu, ils sont voulus de Dieu, pour notre édification, pour que nous comprenions le plan rédempteur du Seigneur. Il y a un plan. Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Mais nous n'avons pas que l'Évangile, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire. Nous avons aussi un autre bien sacré. Cet autre bien sacré, c'est l'Église. L'Église. L'Église de Jésus-Christ bâtie par Jésus-Christ. L'Église nous aide à vivre le plan glorieux de Dieu. Elle nous permet de vivre dans ce monde tout en n'étant pas du monde. Elle est un monde dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde de Dieu. Nous sommes du monde de Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ est l'endroit dans ce monde qui est à part du monde. Avec une autre sorte de vie, avec tout est différent dans ce monde-là. L'Évangile et l'Église vont ensemble. Ça va ensemble, parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut, c'est le plan rédempteur, et puis l'Église, c'est là où on peut le vivre. L'Église construite par Jésus-Christ a pour base l'Évangile. Si on n'avait pas les écrits des prophètes, des apôtres, si on ne savait pas ce que Jésus a dit, on n'aurait pas d'Église. Et l'Église de Jésus-Christ nous donne l'occasion de recevoir donc tout ce que Dieu a à notre disposition. La vie éternelle, premièrement, qui est la chose, c'est quelque chose d'extraordinaire de recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, quand nous serons en dehors de notre corps, eh bien, elle sera la vie éternelle en dehors de notre corps, mais elle sera la continuité, en fait, de ce que nous aurons vécu dans l'Église. Écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je dis. Lorsque nous quittons notre condition mortelle, nous entrons dans une autre dimension, mais nous sommes toujours nous. Vous n'allez pas être tout d'un coup un petit nuage de vapeur qui se balade comme ça. Non, 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 vous allez traîner avec vous votre caractère et toutes ces choses. Nous allons entrer dans cette nouvelle dimension et nous y entrerons avec le fruit, avec le résultat de ce que nous aurons acquis ici-bas dans l'Église ou dans le monde. Si nous avons acquis que des choses dans le monde, ça va être grave pour nous quand on va sortir notre corps. Nous allons entrer avec les résultats de ce que nous aurons vécu dans l'Église qui est donc un monde dans le monde. Et dans cette nouvelle dimension qui sera la nôtre, nous ne serons pas seuls. On ne va pas vivre d'une façon isolée et indépendante. Nous aimerons absolument vivre avec les saints. Alors, pourquoi vivre seul ici-bas? C'est ça la question. Dieu ne veut pas. Il sait que ce n'est pas bon pour nous. Alors, il a créé, premièrement, parce qu'il a vu que ce n'était pas bon pour nous, l'image de ce que ça allait être l'Église, c'est-à-dire la famille. Il a donné à l'homme une femme avec le pouvoir, n'est-ce pas? Ils ont eu des enfants, ça a formé une famille. Et en fait, la famille, c'était l'image de ce que ça allait être l'Église, la véritable Église en Jésus-Christ. Il a bâti, lui, son Église. qui est un monde dans ce monde. L'Église, elle est composée de gens, tous très différents les uns des autres, mais ce qui fait qu'on peut persévérer dans cette unité, dans cette communion, c'est un mot communion, il y a le mot union, dans cette unité fraternelle, c'est notre volonté. Il faut arrêter de dire que c'est le Saint-Esprit. Il faut arrêter de dire que c'est le Saint-Esprit, parce que si on dit que c'est le Saint-Esprit, alors ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas réussi à tenir tous les siens dans la communion fraternelle. On accuse le Saint-Esprit en disant c'est le Saint-Esprit. Non, non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est notre volonté. Le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il peut tout, mais il y a des règles dans le monde de l'Esprit. Si je ne veux pas faire ce qu'il veut, il est attristé et il laisse faire. Alors, le temps que nous avons à vivre sur cette terre, dans ce monde sans être du monde, dans l'Église, ce temps-là, il nous sert à acquérir la foi, il nous sert à acquérir l'amour, il sert aussi à nous donner la possibilité de nous repentir, de nous réconcilier avec Dieu. Pas seulement une fois, hein, mais c'est très souvent. Vous voyez, quand Noé prêcha, il nous est dit dans Hébreux 11 que Noé était un prédicateur de justice, il prêchait la justice. Je suis sûr que dans son message, il y avait aussi la possibilité de se repentir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'allait pas partout en disant, voilà, maintenant il va y avoir un déluge, c'est bien fait, là, pas du tout. C'était un message juste, c'est-à-dire avec la possibilité de se repentir. Et je suis sûr que dans les réunions que tenait Noé, il y avait des gens qui levaient leurs mains, qui se repentaient, qui se réconciliaient avec Dieu. Mais se réconcilier avec Dieu, c'est pas juste lever sa main, c'est pas juste dire « pardonne-moi Seigneur », c'est ajouter un acte à cette repentance. Or, il n'y en a que 8 qui ont ajouté l'acte qu'il fallait ajouter à ce moment-là. Il y avait un acte à ajouter à ce moment-là, c'était d'entrer dans l'arche. Ben, il n'y en a que 8 qui sont entrés. Vous voyez, c'est terrible. Pourtant, je suis sûr que Noé était convaincant et qu'il y en a qui se sont laissés convaincre et qui ont dit, c'est vrai, il faut qu'on se repente, pardon Seigneur. Mais ils ne sont pas, quand il s'est agi de dire, bon, ben maintenant, on quitte la maison, on quitte la bonne femme qui ne veut pas nous suivre, on quitte le bonhomme qui ne veut pas nous suivre, on quitte les... Jésus a dit, quiconque ne renonce pas à tout, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, tout, pour me suivre, il ne peut pas. C'est terrible. Alors on dit, oui, là, les islamistes fanatiques, c'est terrible. Eh, quand vous regardez le message de Jésus, c'est terrible aussi. C'est terrible aussi. Mais ça, ça fait partie de la bonne nouvelle. Ben, il n'y en a eu que 8 qui ont dit, non, oui, on va faire ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. Pas simplement dire pardon. Voyez, Humainement parlant, nous sommes faibles. Et comme il y a toujours opposition en toute chose, cette vie serait vraiment bien difficile si on n'avait pas un sauveur. Et Jésus-Christ est venu pour être notre sauveur. Jésus est le sauveur du monde, je suis dans le monde, donc j'ai un sauveur. Mais maintenant, j'ai un sauveur. Et il y a plein de gens qui se sont repentis et qui vont être sauvés. Azure. Mais pour suivre Jésus, il faut prendre sa croix, ça veut dire quoi? Il faut mourir, c'est-à-dire il faut renoncer vraiment à sa propre vie. Pour suivre le Seigneur, il faut aller là où il va. Et où est-ce qu'il va? Sur un chantier, monsieur, dame, sur un chantier, là où il construit son église. Eh, c'est déjà pas mal construit, c'est un chantier qui a beaucoup avancé, c'est immense, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est là qu'il va et c'est là qu'il faut aller. Dans son église. Je ne dis pas que Jésus est enfermé dans les églises, c'est-à-dire dans les bâtiments, églises que nous voyons dans tous les villages, c'est pas ça. Je me rappelle d'un dessin que j'avais vu dans un journal où on voyait Dieu qui était enfermé dans une église, derrière des barreaux, puis des gens qui venaient le dimanche jeter quelques cacahuètes. C'était pour se moquer. Mais c'est un petit peu l'idée, n'est-ce pas? On va à l'église, on va rencontrer Dieu, comme s'il nous attendait là toute la semaine. Puis des fois, on va à l'église, puis on ne sent pas la présence de Dieu. En plus, il a dû prendre des vacances, ou alors il n'est pas content, donc il est parti. En sachant qu'on allait venir, il est parti. Non, mais attendez, c'est vraiment du cirque. L'église, ce n'est pas ça. Je dis que Jésus, il est dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est ça, l'église. Alors, si c'est ça l'Église, la communion fraternelle, combien de temps Jésus reste-t-il dans son Église chaque semaine? Pour la question autrement, combien de temps Jésus est-il en communion avec vous chaque semaine? Il vit dans les autres. Combien de temps passez-vous en communion avec les uns, avec les autres? Pas simplement d'habiter géographiquement, mais d'être en communion, c'est-à-dire d'être au courant de ce qui se passe, de s'inquiéter des uns et des autres, d'aller trouver celui qui est malade, d'aller prier avec celui qui souffre, d'aller se réjouir avec celui qui se réjouit. Hein, c'est ça. Jésus, donc, est venu, et c'était Dieu dans un corps. On le sait, ça, on le dit, mais il faut réaliser. Jésus était parfaitement Dieu, mais comme il était né d'une mère terrestre, il avait donc un corps qui était comme le nôtre, sujet à la souffrance, sujet aux douleurs. Il a fait ce qu'il avait à faire, et puis il est remonté au ciel, et maintenant, il nous laisse faire la suite du plan de Dieu. Et il a dit, je bâtirai mon église. Et son église, c'est son nouveau corps. Personne ne peut nier ça. Tout croyant, c'est cela. C'est un mystère pour le monde, mais pour nous croyants, nous savons, c'est que Dieu édifie son corps, et encore à l'heure actuelle, il édifie son corps, il le construit. Éphésiens 4, 11, 13, pour ceux qui veulent des références. Et ce corps, c'est l'Église. Ce n'est pas une imagination de Michel Janton, c'est Éphésiens 5, 23. L'Église, c'est son corps. Et c'est un corps qui est sujet aux souffrances. Alors c'est vrai que des fois on souffre dans l'Église parce que voilà, il y a le frère machin, puis il y a la sœur truc, puis voilà, puis c'est difficile. Alors on peut souffrir, mais il est le sauveur, la Bible nous dit, pas de n'importe quoi, il est le sauveur de son Église. Ça c'est Éphésiens 5, 23. Il n'est pas le sauveur de n'importe quoi, il est le sauveur de son Église. Suivre Jésus le sauveur, c'est être membre du corps de Christ, Éphésiens 5, 30. Être membre du corps de Christ, membre de l'Église, que Jésus est venu sauver. Mais qui est une Église qui occasionne des souffrances, comme le premier corps de Christ, qui était un corps de chair, était sujet aux souffrances. Le deuxième corps de Christ, qui est un corps bien terrestre, est aussi sujet aux souffrances. Et on peut souffrir dans l'Église, c'est vrai. Souvenez-vous de ce que je vous disais au début. Dieu voyait que ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul, donc il a créé la famille. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Vous connaissez ce texte. Et c'est l'image de ce qu'est l'Église. L'image absolue. L'homme quitte le monde et s'attache au corps de Christ, et il devient un seul cœur, une seule âme, avec, c'est écrit dans Acte 4, 32. Une seule âme, ça veut dire un seul être. Un être unique. L'Église, c'est un être vivant. Le corps de Christ, c'est l'Église. L'esprit de ce corps, c'est Jésus. S'il n'y a pas Jésus, c'est un corps mort. Quand mon esprit, l'esprit de Michel Janton, quittera le corps que vous voyez là, je ne serai plus qu'un corps mort. Ben, l'Église, c'est le corps de Christ. Quand l'esprit de Jésus sortira de ce corps, qui est l'Église, ben, ce sera un corps mort. Ça existera toujours, mais ça sera mort. L'esprit de Jésus dans son corps, ça forme un être qui est l'Église. Et cet être, ce corps, il a plusieurs membres. Et nous sommes les membres de ce corps, vivant, un être vivant. Jésus ne bâtit pas un corps déglingué. Il édifie un corps, une église unie. C'est uni. Un corps dont les membres sont unis. Pas uniformes, unis. Et qui agissent avec une coordination. Aucun membre n'agit seul. Il y a un programme, il y a un plan. Alors je reviens à ce que je disais au début de cette étude. Nous avons l'Évangile et nous avons l'Église. Ce sont les Écritures, c'est l'Évangile qui nous édifie. Les enseignants les ministères de l'Évangile, les ministres de l'Évangile enseignent et donnent au corps quoi? Ces enseignements, ils donnent quoi? Ils donnent une assistance pour que tout le corps soit bien coordonné et forme un solide assemblage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul aux Éphésiens chapitre 4, verset 16. L'enseignement, c'est-à-dire l'Évangile, donne à l'Église, au corps, la possibilité d'être coordonné et de former un solide assemblage. Supposons que votre corps ne soit pas solidement assemblé. Ça donnerait quoi? Heureusement, hein, que notre corps est solidement assemblé. Les tendons, les muscles et tout ça, ça tient. Hein, si je n'ai pas peur tout d'un coup que j'ai voilà, mon bras qui tombe par terre, oups, il faut que je le ramasse. Non, c'est solidement assemblé. Eh bien, le corps de Christ, son nouveau corps sur la terre, il y avait un premier corps, c'était quand il était là-bas, sur la terre de Galilée. Maintenant, son nouveau corps, c'est l'Église. Éphésiens 4, 16, voici comment est la vraie Église de Jésus-Christ, un corps qui est solidement assemblé et qui, eh bien, qui a des gestes, qui pose des gestes bien coordonnés. Ce n'est pas du n'importe quoi. C'est un assemblage solide, bien coordonné. Chacun peut tirer là-dedans, tirer des autres membres, des autres parties de ce corps, la force dont il a besoin en tant que membre du corps divin. Il peut tirer la force dont il a besoin lui-même. Tout cet assemblage n'est pas possible sans le mode d'emploi. Tout ça, on trouve dans Éphésiens 4, hein, ce que je vous dis là, c'est pas... Je paraphrase, c'est tout. Mais c'est comme ça que ça se passe. On tire les uns des autres. Beaucoup de gens ne font que de prier Jésus qui est au ciel, ils oublient de prier Jésus qui est dans le frère et la sœur. Là, ils peuvent, du frère et de la sœur en qui vit le Saint-Esprit, ils peuvent tirer la force dont ils ont besoin en tant que membres du corps de Christ. Comme mes membres, les membres de mon corps, là, eh ben, peuvent quand ça me gratte, eh ben, c'est la main qui gratte le sourcil, par exemple, hein, ou je me lave, ou voilà, ben, c'est les membres prennent soin des uns des autres. Tout cet assemblage, mes frères et sœurs, n'est possible que grâce à un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est le mode d'emploi de la vie de ce corps, de l'Église qui est bâtie par Jésus-Christ. C'est le mode d'emploi. Si on baptise avec des matériaux en rejetant d'autres, en prenant juste certains trucs, on dit, bon, tiens, on va construire hein, quelque chose, on va construire une maison, mais bon, on va pas mettre deux toits, on va pas s'embêter avec le toit, ça c'était bon pour autrefois. Hein? Ou alors on va pas mettre, tiens, le mur qui est au nord, on le met pas. Ça c'était une fausse croyance des apôtres, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, c'est écrit dans le mode d'emploi, mais c'était pour avant. Hein, c'était des arriérés, il y a 2000 ans maintenant, on a compris, c'est différent. Ben, c'est la même chose, si on néglige certaines choses du mode d'emploi, on a un corps qui est bancal. On n'a pas une église de Jésus-Christ, on n'a pas une église construite par Jésus-Christ, on n'a pas une église construite selon le mode d'emploi de Jésus-Christ. On a un club chrétien, mais pas l'église. Pas l'église. Chaque membre ne pourra pas s'édifier dans l'amour. Il y aura des manques, il y aura des trous, il y aura des trucs qui ne marchent pas. Alors c'est beaucoup de souffrance inutile dans tout ce corps-là. Je lisais, parce qu'il y a des souffrances utiles, je vous parlerai de cela dimanche, des souffrances utiles. Il y a des souffrances utiles. Mais là, ça, c'est vraiment des souffrances inutiles. Simplement, voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait, ben, c'est des souffrances inutiles. Essayez par exemple de dire à vos mains, ah ben non, là, maintenant, ben, c'est fini, tu laves plus les pieds. Bon, ben, vous allez voir les pieds, au bout de quelques temps, ça fait mal, parce que la saleté, ça traîne plein de choses, des bactéries, toutes sortes de trucs, et vous allez être malade. Ah oui, mais non, mais le mode d'emploi dit que les mains doivent laver les pieds, mais moi, je pense que ça, c'est pour autrefois. Non. Vous voyez ? Ben voilà, il faut faire ce qui est dans le mode d'emploi, dans la Bible, dans l'Évangile. Je lisais hier un texte dans Apocalypse 2, 23, je vais vous le lire. Apocalypse 2, 23. Sinon, il y a tous les bouts de papier qui vont tomber et les petites enveloppes, avec les petits mots gentils de notre sœur Simone. Il y a toutes sortes de choses dans la Bible. Apocalypse, il y a les photos de tout le monde. C'est un album de photos, ma Bible. Apocalypse 2, 23. Je lis. Je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun selon à chacun de vous selon ses œuvres. Les églises. J'ai bien lu, hein? C'est comme ça. Là, c'est Jésus qui parle à la grande prostituée qui a pour nom, il lui donne un nom, il lui donne le nom de Jézabel. Jésus parle donc de cette mère des fausses églises, Jézabel. Et il lui dit que non seulement il va la détruire, mais qu'il détruira aussi ses enfants, c'est-à-dire les églises. Et toutes les églises connaîtront que Dieu sonde les cœurs, il sonde tout, il voit tout. Alors pour le moment, il tolère, mais il appelle ses enfants. Il frappe à la porte et il veut qu'on obéisse, qu'on fasse ce que... Il dit, Jézabel, c'est la grande prostituée, c'est-à-dire qu'elle s'est détournée de Dieu, son époux, pour, n'est-ce pas, aller, excusez-moi le terme, mais Chouraki l'emploie dans sa Bible, donc je l'emploie aussi, pour aller putasser avec les grands de ce monde, hein, dans la politique et les finances. Et elle a enfanté des églises, c'est-à-dire que d'elle sont sorties toutes sortes de dénominations, n'est-ce pas, des organisations humaines, qui ressemblent plus ou moins à ce que devrait être la vraie église de Jésus-Christ, mais ce n'est pas ça. Ils construisent selon leurs idées, selon aussi leurs intérêts. Mais la vraie église, elle est construite par Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'esprit de Jésus-Christ est maintenant dans un corps qui a des membres qui lui sont soumis. C'est-à-dire soumis à ce qu'il dit. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je commande? Jésus, il a donc bâti, il dit je bâtirai mon église. Comment Jésus-Christ bâtit-il son église? Comment est-ce qu'il l'établit? Eh bien, c'est écrit sur le fondement des apôtres et des prophètes. On va lire Éphésiens 2, 19, 22. Éphésiens 2, 19, 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, c'est-à-dire des gens du monde, mais vous êtes des concitoyens, hein, des saints, gens de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous ne pouvons pas construire une église sur autre chose, avec un autre mode d'emploi. C'est comme moi si je vais chez IKEA et j'achète une étagère, il y a un mode d'emploi. Comme je déteste les modes d'emploi, la plupart du temps, je ne regarde pas le mode d'emploi et je regarde les planches, les vis, les machins, je monte et ça me donne un four à micro-ondes. Même pas, ça ne me donne rien du tout. Hein. J'essaye et au bout d'une heure, je m'énerve. Qu'est-ce que je fais? Vous le savez, je téléphone à mon gendre, Eric Jacques, et je dis « Eric, j'y arrive pas !» Évidemment, je ne lis pas le mode d'emploi. Et mais ça m'énerve les modes d'emploi. C'est écrit trop petit, et puis c'est compliqué, ça me semble... Mais la Bible, ce n'est pas écrit trop petit et ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas vrai. Je vous montre l'erreur que je fais pour vous dire qu'il ne faut pas faire cette erreur. Il faut regarder les modes d'emploi. Nous ne pouvons pas bâtir sur autre chose ou en prenant les matériaux, en les assemblant n'importe comment, comme on pense. C'est sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, il est la pierre de l'angle et en lui, en Jésus, toute la construction est bien coordonnée. Et ça ne peut pas, si la tempête vient, ça ne tombe pas. Alors, ce qu'il construit, c'est son habitation, c'est son temple. Il est l'esprit et nous sommes le corps, il habite ce corps, son temple, son église. Et nous sommes les pierres vivantes de ce temple. Et il est l'esprit de ce corps uni, bien coordonné, selon ce que les prophètes et les apôtres ont enseigné. Et il dit que nous détenons et que nous remplissons maintenant nos responsabilités dans ce corps. Et avec ce corps, parce qu'on a une vie dans le corps et une vie du corps vers l'extérieur. Vous suivez? Et ce corps, il sert, il est au service des autres, il est au service des gens qui sont aussi membres du corps, mais il est au service, comme par exemple mes mains lavent mes pieds, comme je vous disais tout à l'heure, et Evelyn, passe-moi l'éponge, disait Fernand Reynaud, mais aussi au service des autres, de ceux de l'extérieur, de ceux qui n'observent, qui ne sont pas de ce corps. Ceux qui nous regardent savent bien que c'est vrai. Et mes frères et sœurs, il faut que nous soyons fidèles à l'alliance que nous avons faite avec Jésus. Nous avons besoin de l'Église et de l'Évangile, des deux. Des deux. L'Évangile est nécessaire pour approfondir notre compréhension de la divinité, de qui est Dieu, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais vous êtes des pierres vivantes de par l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, il n'est que dans son Église, agissant. Et nous sommes appelés à avoir un amour qui est soutenu par cet Esprit de Jésus-Christ. Parce que si c'est que par la chair, cet amour ne dure pas longtemps, on le sait. Nous sommes appelés à prier le Père que nous aimons au nom de Jésus-Christ, en cherchant l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne. Ce Saint-Esprit, il vit en nous, mais pas hors de l'Église. Si nous sommes hors de l'Église, le Saint-Esprit est attristé. Nous sommes appelés à faire face à des démons, à des néphilim, à des esprits de mort nuisibles, et nous avons à les lier au nom de Jésus et les chasser dans les lieux de ténèbres avec une foi absolument inébranlable. Beaucoup de chrétiens n'osent plus faire ça. Dans beaucoup d'églises, on ne lie plus, on ne chasse plus les démons, on ne prie plus pour les malades, on ne fait plus ça, c'est terminé. Nous sommes appelés à associer notre prière à une humble méditation pour construire notre foi régulièrement, c'est régulièrement. Comme on se donne à manger tous les jours, tout à l'heure on va aller à table dans la voiture, on va à la chapelle, j'ai dit à Michou, qu'est-ce qu'on mange? Du canard à l'orange, comme Fernand Reynaud. Vous voyez, mes frères et sœurs, on mange tous les jours, et bien tous les jours aussi, une humble méditation pour construire notre foi, et cela régulièrement. Ça fait partie du mode d'emploi. C'est pas la secte Janton qui dit de faire ça, c'est la Bible. Et on ne peut pas servir Dieu si on ne le connaît pas, ou si on ne connaît pas ses intentions. Si on ne connaît pas les intentions de Dieu, supposons que Noé ne connaisse pas les intentions de Dieu, il aurait construit quoi ? Une cabane au fond du jardin. Avant, au fond du jardin. Nous aussi, nous devons connaître les intentions de Dieu, savoir quel est son plan pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut. Et on doit nous concentrer sur les ordonnances, sur les alliances, nous discipliner afin d'être fidèles à tout ce que nous nous sommes engagés. Alors nous devons unir l'Évangile à l'Église, à la communauté. Et si nous le faisons, eh bien l'Église deviendra une plus grande bénédiction pour notre propre vie d'abord et ensuite pour la vie des autres. Mais ça, c'est nous qui devons le faire. C'est nous qui devons le faire. L'Esprit de Dieu sera notre instructeur, mes frères et sœurs, dans la mesure où nous préparons nos cœurs à chercher la connaissance par l'étude. C'est par l'étude. Comme le fameux manuscrit, enfin pas manuscrit, mode d'emploi de Ikea. Il faut participer activement au rachat des morts. Ça, c'est l'intention de Dieu pour aujourd'hui. Peu d'églises, presque rien, personne ne le sait, personne ne le fait. Et ils sont en train de chercher la volonté de Dieu et Dieu leur dit, mais ils n'écoutent pas, ils ne croient pas. Bon, voilà. Et nous prêchons l'évangile aux vivants. Mais il faut prêcher l'évangile aux vivants en étant bien certain, en veillant bien à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin que la parole prêchée soit confirmée par des miracles qui viennent de Dieu. C'est nécessaire, c'est comme ça que Jésus faisait, c'est comme ça que les apôtres faisaient, c'est comme ça que nous devons faire. Si on ne fait pas ça, eh ben, on utilise mal le mode d'emploi. Et puis après, on s'étonne. Bref, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est soyez vraiment convertis. Amen. Merci Jésus de nous aider à être vraiment convertis. Merci parce que tu ne tiens pas compte de nos fautes, tu vois, tu sais que nous sommes faibles, qu'humainement nous avons des faiblesses et que des fois, ben bon, voilà, on fait des choses qu'après on n'est pas tellement fiers. Mais Seigneur Jésus, nous savons que nous pouvons venir vers toi toujours. Et tu es toujours un Dieu compatissant et qui nous relève et qui nous bénit et qui nous encourage à continuer sur le chemin selon l'Évangile et dans l'Église. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as construit l'Église. L'Église, c'est le lieu le plus sacré du monde. Pas le bâtiment, mais le lieu de la communion fraternelle. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.